Suite et fin de l'histoire du petit Mouk. Un soir, le hasard conduisit le petit Mouk dans une partie éloignée du jardin royal qu'il fréquentait peu. Tout d'un coup, il sentit la canne magique trembler dans sa main et frapper trois fois le sol. Il savait ce que cela voulait dire. Il saisit donc son poignard, grava des signes dans l'écorce des arbres environnants pour retrouver l'endroit et retourna secrètement au château. Là, il prit une pelle et attendit la nuit quand tout le monde était couché. Creuser un trou lui donna beaucoup de peine. Les pauvres bras du petit Mouk étaient bien faibles et la pelle, par contre, était grande et lourde. Et il dut travailler 2 heures avant d'avoir creusé un trou de quelques pieds de profondeur. Finalement, il sentit que sa pelle cognait contre quelque chose de dur qui résonnait comme du fer. Il creusa avec plus d'acharnement et eut bientôt mis à nu un large couvercle en fer. Il descendit dans le trou pour voir ce qu'il pouvait bien recouvrir et il trouva un grand pot rempli de pièces d'or. Mais ses faibles forces ne lui permettaient pas de soulever le pot. Il glissa donc autant d'or qu'il pouvait emporter dans son pantalon et dans sa ceinture, remplit également les poches de son manteau, chargea celui-ci sur son dos et soigneusement remit de la terre sur ce qu'il restait. À la vérité, s'il n'avait pas eu ses pantoufles aux pieds, il n'aurait jamais été capable de quitter cet endroit tellement la charge était lourde. Il réussit cependant à arriver sans être vu dans sa chambre, où il cacha ses pièces sous les coussins du sofa. Le petit Mouk, se voyant en possession d'une telle fortune, crut que la chance allait tourner et qu'il se ferait à la cour de nombreux protecteurs et amis, parmi ceux qui étaient pour le moment ses ennemis. Qu'il ait eu cette pensée prouve bien que le brave Mouk n'avait pas reçu une éducation soignée, sinon il ne se serait pas à imaginer qu'on peut gagner de véritables amis avec de l'or. Ah ! Si seulement à ce moment-là, il s'était sauvé avec son petit manteau rempli d'or en servant de ses pantoufles pour aller plus vite. L'or que Mouk distribua à pleine main suscita l'envie des autres serviteurs de la cour. Le chef cuisinier dit « C'est un faux monnayeur, c'est des fausses pièces d'or, en réalité c'est du plomb doré. » Le chef des serviteurs dit « Il se l'est fait donner par le roi. » Mais Arkaz, l'intendant des trésors, son pire ennemi, qui de temps à autre volait certainement dans le trésor du roi, dit tout net « Le petit Mouk est un voleur, il a volé le roi notre maître. » Ils se mirent d'accord et le premier échanson, Korchouz, qui servait le vin à boire au roi, se montra un jour très triste au roi. Si triste que le roi lui demanda ce qu'il avait. « Ah, dit le premier échanson, je suis triste d'avoir perdu les bonnes grâces de mon maître. »« Que racontes-tu là, ami Korchouz ?» répliqua le roi. « Depuis quand n'aurais-je pas fait briller le soleil de ma grâce sur toi ?» Le premier échanson lui répondit que cela se voyait bien, qu'il comblait d'or le courrier en chef secret, mais qu'il ne donnait rien à ses pauvres serviteurs fidèles. Le roi, très surpris de cette nouvelle, demanda des explications, se fit raconter les distributions de pièces d'or par le petit Mouk, et les serviteurs eurent vite fait d'éveiller en lui le soupçon que le petit homme avait, d'une façon ou d'une autre, voler de l'argent dans le trésor royal. la tournure que prenait l'affaire vint fort à propos pour le trésorier qui n'aimait guère à rendre ses comptes car il était voleur. Le roi ordonna donc de faire surveiller secrètement le petit Mouk et, si possible, de le prendre en flagrant délit. Lorsque, la nuit qui suivit cette malheureuse journée, le petit Mouk prit sa pelle et se glissa dans le jardin du château pour y prendre une nouvelle provision d'or, car il avait distribué presque tout celui qu'il avait pris, les gardes, dirigés par le cuisinier en chef Aouli et l'intendant du trésor Arkaz, le suivirent de loin, et au moment même où il s'apprêtait à prendre les pièces dans le pot pour les mettre dans les poches de son petit manteau, ils se jetèrent sur lui, l'attachèrent et le conduisirent aussitôt devant le roi. Celui-ci, déjà de mauvaise humeur parce qu'on l'avait réveillé, reçut fort mal son pauvre courrier en chef secret et commença aussitôt à le questionner. Entre-temps, on avait complètement déterré le pot et déposé celui-ci, de même que la pelle et le petit manteau rempli d'or, au pied du roi. L'intendant du trésor affirma qu'il avait, avec les gardes, surpris le petit Mouk au moment même où celui-ci était en train d'enterrer le pot. Le roi demanda ensuite à l'accusé si cela était vrai et où il avait pris l'or qu'il enterrait. Le petit Mouk, qui se sentait tout à fait innocent, répondit qu'il avait trouvé ce pot dans le jardin et qu'il n'était pas en train de l'enterrer, mais de le déterrer. Tous les assistants rirent aux éclats de cette excuse, et le roi, très fâché pour ce qu'il prenait pour de l'impertinence du petit homme, s'écria « Comment, misérable, tu mens d'une façon aussi stupide et criminelle à ton roi après l'avoir volé ? Trésorier Arkaz, dis-moi si tu reconnais que cette somme est exactement celle qui manque dans mon trésor. » Le trésorier répondit que non seulement il en était certain, mais que depuis un certain temps, il en manquait encore plus dans le trésor royal et qu'il jurait que cette somme avait été volée. Bien sûr, pour de vrai, c'est lui qui avait volé de l'or. Alors le roi ordonna d'enchaîner étroitement le petit Mouk et de le conduire en prison. Au trésorier, par contre, il donna de l'or pour que celui-ci le remette dans le trésor. Plein de joie de voir comment l'affaire se terminait, le trésorier partit et, une fois chez lui, se mit à compter les pièces d'or. Mais ce mauvais homme n'avait pas dit au roi que tout au fond du pot se trouvait un papier disant « L'ennemi a envahi mon pays. J'enfouis donc ici une partie de mes trésors. Celui qui la trouvera et ne la livrera pas aussitôt à mon fils sera maudit par son roi. » Et c'était signé par le roi d'avant, le père du roi qui régnait à ce moment-là. Le petit Mouk, dans son cachot, était triste. Il savait que le vol de biens royaux était puni de mort, et cependant il ne voulait pas révéler le secret de sa canne au roi, parce qu'il avait peur que le roi la lui prenne, et sa canne, et ses pantoufles. Celle-ci, malheureusement, ne pouvait pas lui servir. Il était étroitement enchaîné au mur, et ne réussit pas, malgré toutes ses tentatives, à tourner sur son talon. Seulement, lorsque le lendemain on lui annonça sa mort prochaine, il se dit qu'il valait tout de même mieux vivre sans canne magique plutôt que de mourir avec elle. Il demanda au roi de lui parler tout seul et lui révéla le secret de la canne magique. Tout d'abord, le roi ne crut pas du tout ce que lui disait le petit Mouk. Mais celui-ci promit de fournir la preuve de ce qu'il avançait si le roi lui faisait grâce de la vie. Le roi lui donna sa parole fit secrètement enterrer un peu d'or et ordonna à Mouk de le rechercher à l'aide de sa badine, la canne. En quelques instants, le petit Mouk le retrouva car la canne frappa distinctement le sol par trois fois. Alors, le roi se rendit compte que son trésorier l'avait trompé. Et il lui envoya, comme c'est la coutume dans les pays d'Orient, une cordelette en soie pour qu'il se pende lui-même. Et il dit au petit Mouk, « C'est vrai, je t'ai promis la vie sauve. Mais il me semble que ce secret de ta canne magique ne soit pas le seul que tu aies. Tu resteras donc éternellement en prison si tu ne dis pas comment tu fais pour courir aussi vite. » Le petit Mouk, auquel une nuit passée en prison avait enlevé toute envie d'une captivité plus longue, reconnut qu'il avait des pantoufles magiques. Mais il ne dit pas au roi le secret qui consistait à faire trois tours sur ses talons. Le roi en personne chaussa les pantoufles pour éprouver leur pouvoir et, comme déchaîné, courut follement dans le jardin. Il essaya bien des fois de s'arrêter, mais il ne savait pas ce qu'il fallait dire pour arrêter les pantoufles, et le petit Mouk ne put pas s'empêcher de prendre cette petite revanche, de le laisser aller jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Lorsque le roi eut retrouvé ses esprits, il était très en colère contre le petit Mouk qu'il avait laissé courir à en perdre la respiration. « Je t'ai donné ma parole de te laisser la vie et la liberté. Mais si tu ne quittes pas le pays dans les 12 heures, je te fais pendre, » dit-il. D'autre part, les pantoufles et la petite canne furent déposés dans le trésor royal. Plus pauvre que jamais, le petit Mouk quitta le pays, maudissant sa stupidité qui lui avait fait croire qu'il pourrait jouer un rôle important à la cour du roi. Heureusement, le pays dont il venait d'être chassé n'était pas bien vaste, et il se trouva donc au bout de 8 heures de marche à la frontière, bien que le voyage à pied lui fût pénible à lui qui était habitué à ses chères pantoufles magiques. Après avoir passé la frontière, il quitta les chemins fréquentés pour s'enfoncer au plus profond des forêts désertes afin d'y vivre tout seul, car il en voulait au monde entier. Il trouva un endroit qui lui plut. Un joli ruisseau bordé de grands figuiers ombreux. Des figuiers, ce sont des arbres qui portent des fruits qu'on appelle des figues. Un tapis d'herbes douces l'invitait au repos et il se coucha, résolu à ne plus prendre de nourriture et à attendre la mort. Mais lorsqu'il se réveilla et que la faim commença à lui faire mal au ventre, il se dit que c'était trop dur de mourir de faim et il regarda aux alentours pour voir s'il ne trouverait pas quelque chose à manger. De magnifiques figues mûres pendaient aux branches de l'arbre sous lequel il avait dormi. Il monta sur le figuier pour en cueillir quelques-unes, mangea à sa faim, puis descendit pour boire dans le ruisseau. Quelle ne fut pas sa frayeur lorsqu'il s'aperçut en se penchant que son nez était devenu une trompe d'éléphant et qu'il avait sur les côtés de la tête des oreilles d'âne. Je mérite bien des oreilles d'âne, s'écria-t-il, car comme un âne, j'ai gâché mon bonheur. Il se promena sous les arbres, et lorsque la faim le tenailla de nouveau, il grimpa sur un autre figuier. Lorsqu'après avoir mangé des figues de ce deuxième arbre, Il lui vint l'idée de vérifier s'il ne pourrait pas cacher ses longues oreilles sous son grand turban, afin de ne pas avoir une apparence si ridicule. Il fut surpris de constater en les tâtant qu'elles avaient perdu leur longueur et qu'il avait retrouvé des oreilles ordinaires. Il tâta son nez et vit qu'il n'avait plus une trompe d'éléphant, mais que son nez avait repris lui aussi sa longueur ordinaire. À ce moment, il comprit comment cela avait pu arriver. Les fruits du premier figuier lui avaient fait pousser le nez et les oreilles, et ceux du deuxième figuier l'avaient guéri. Tout joyeux, il cueillit donc à chaque arbre autant de fruits qu'il pouvait emporter et retourna dans le pays qu'il venait de quitter. Dans le premier village où il arriva, il changea de vêtements pour qu'on ne le reconnût pas, puis il continua son chemin vers la ville dans laquelle habitait le roi. On se trouvait justement à une saison où les fruits frais sont encore rares. Le petit Mouk s'assit donc à la porte du palais, car il savait très bien que c'est à cet endroit que le cuisinier en chef venait acheter des fruits et des légumes pour la table royale. Le petit Mouk n'était à son poste que depuis peu lorsqu'il vit le cuisinier en chef traverser la cour. Le cuisinier examina les marchandises des vendeurs rassemblés à la porte du palais et finalement il regarda le panier du petit Mouk. « Ah ah ! Une chose rare, dit-il, qui fera certainement plaisir à sa majesté. Combien demandes-tu pour tout le panier ?» Le petit Mouk indiqua un prix peu élevé et il vendit le panier des figues qui donnaient aux gens des oreilles d'âne et une trompe d'éléphant. Le cuisinier en chef remit le panier à un serviteur et continua à faire ses courses. Mais le petit Mouk, lui, se sauva très vite, parce qu'il craignait, lorsque le malheur serait visible sur les têtes princières, qu'on ne recherchât le vendeur pour le punir. À table, le roi était de très bonne humeur. Plus d'une fois, il félicita son cuisinier en chef pour sa bonne cuisine et pour le soin qu'il mettait toujours à lui procurer les plats les meilleurs. Le cuisinier, cependant, sachant très bien quel morceau de choix il avait encore à sa disposition avec ses figues, souriait aimablement tout en laissant tomber d'un air faussement modeste quelques remarques telles que « Qui vivra verra, c'est la fin qui couronne l'œuvre », de sorte que les princesses étaient fort curieuses de savoir ce qu'il leur réservait encore. Mais lorsqu'il fit apporter des belles figues bien alléchantes et appétissantes, une exclamation générale d'agréable surprise se fit entendre. « Qu'elles sont mûres! Qu'elles sont appétissantes !» s'écria le roi. « Chef cuisinier, tu es un génie et tu mérites une grâce toute particulière. Tu seras récompensé spécialement. » Tout en parlant ainsi, le roi distribua de sa propre main les figues à sa table. Chacun des princes et chacune des princesses en eut deux. Les dames de la cour, les ministres et les gouverneurs de province en eurent chacun une. Et il garda le reste devant lui et se mit à avaler une figue après l'autre avec le plus grand plaisir. « Mon Dieu, que tu es drôle, père !» s'écria soudain la princesse Amarza. Surpris, tous les convives regardaient leur roi. D'énormes oreilles lui pendaient de chaque côté de la tête. Un long nez descendait jusque sur la table. Ils se regardèrent les uns les autres avec étonnement et frayeur, se tâtèrent le nez, se touchèrent les oreilles. Tous avaient ces étranges ornements. On peut s'imaginer la terreur de la cour, les cris. Aussitôt, on fit chercher tous les médecins de la ville. Ceux-ci arrivèrent en grand nombre, ordonnèrent des pilules, des mixtures, des médicaments plus extraordinaires les uns que les autres, mais les oreilles et les nez restèrent telles quelles. On opéra l'un des princes en lui coupant sa trompe et ses oreilles, mais la trompe repoussa et les oreilles repoussèrent. Mouk, dans la cachette où il s'était réfugié, avait entendu toute l'histoire et se rendit compte qu'il était temps d'agir. Avec l'argent que lui avait procuré la vente des figues, il avait acheté un habit qui pouvait le faire prendre pour un savant. Il avait complété son déguisement avec une longue barbe en poil de chèvre. Portant dans un petit sac des figues du deuxième figuier, il se rendit au palais du roi et y offrit son aide en tant que médecin étranger. Au début, on l'accueillit sans croire à ce qu'il disait, mais lorsque le petit Mouk eut donné une figue à l'un des princes et que celui-ci, après l'avoir mangée, eut retrouvé ses oreilles et son nez d'avant, tout le monde voulut être guéri par le médecin étranger. Le roi, lui, le prit en silence par la main et le conduisit dans son appartement. Là, il ouvrit une porte menant au trésor et fit signe à Mouk de le suivre. « Voici mes trésors, dit le roi. Choisis ce que tu voudras, je te l'accorderai si tu me débarrasses de mes oreilles d'âne et de ma trompe d'éléphant. » C'était là de douces paroles aux oreilles du petit Mouk. Dès l'entrée, il avait vu poser ses pantoufles sur le seuil et tout près aussi sa canne magique. Il se promena dans la salle comme s'il voulait admirer les trésors du roi, mais à peine arrivé près des pantoufles, il les enfila rapidement, saisit sa canne, arracha sa fausse barbe et montra au roi étonné le visage de son courrier en chef secret. « Roi perfide, dit-il, tu récompenses de fidèles services par l'ingratitude. Garde tes oreilles d'âne et ta trompe d'éléphant, c'est une punition bien méritée. Et elles te rappelleront tous les jours le petit Mouk avec qui tu as été injuste. » Ayant ainsi parlé, le petit Mouk tourna prestement trois fois sur son talon, souhaitant d'être transporté loin, et avant que le roi eût pu appeler au secours, le petit homme s'était envolé. Fin de l'histoire du petit Mouk. Thank you. La musique était une étude de Debussy. Si tu veux entendre un autre conte du même auteur, demande l'histoire du faux prince. C'est une autre cassette.